un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Au départ, il y a un couple normand et catholique. La femme reçoit un jour un signe de Dieu qui l'encourage à œuvrer pour le bien. Elle commence par adopter une jeune fille venue d'Éthiopie, puis se fait une vocation de sauver les enfants éthiopiens de la pauvreté. Elle fonde alors une association de soutien aux enfants éthiopiens, puis un organisme d'adoption, les Enfants de Reine de Miséricorde, agréé par le ministère des Affaires étrangères en 1990. Au total, entre 1990 et 2017, 1575 enfants éthiopiens ont été adoptés en France via cette association. Des éléments concordants semblent aujourd'hui mettre en doute la régularité, voire la légalité de ces procédures d'adoption. En mai 2021, deux adoptés et un père adoptif ont porté plainte contre l'association pour abus de confiance et escroquerie. Les responsables de ladite association sont pour l'instant présumés innocents. Deux enfants adoptés racontent tout de suite ce qu'ils ont vécu à Alain Lefkovitch.
Alors moi je m'appelle Samuel, j'ai 29 ans et j'habite à Marseille. Je suis arrivé en France en 96, j'avais 4 ans et je suis né à Addis Abeba qui est la capitale de l'Éthiopie. Je suis arrivé à l'âge de 4 ans dans le centre de la France, dans une toute petite ville, et c'est là que j'ai grandi, avec mes deux sœurs en fait. Elles avaient 6 et 7 ans. Je me rappelle très peu de ma mère qui est décédée juste après ma naissance et mon père est décédé 3 ans plus tard en fait. Donc je me suis retrouvé avec mes deux sœurs dans un orphelinat où nous sommes restés un peu moins d'un an avant de prendre l'avion sans savoir où on allait. Et en fait, on avait été adoptés du coup en France. Je pars, je n'ai pas du tout été préparé à un départ en France. On nous a vaguement, les quelques jours avant de partir, appris à utiliser des couverts. En Éthiopie, on mange avec les mains. Et on nous a peignés, brossés, et on nous a nettoyés comme des voitures pour qu'on soit présentable. Donc la seule préparation qu'il y a eu, c'était dans ce sens-là. Les personnes qui m'ont adopté en France, je ne les avais pas vues en photo, je ne connaissais pas leur nom, je ne connaissais rien. Et on m'a mis dans les bras de ces personnes à l'aéroport Charles de Gaulle en juin 1996. C'était des parfaits inconnus pour moi. Ils sont venus nous chercher, cette famille qui avait déjà 6 enfants. Et ils sont venus nous chercher tous ensemble à Paris, donc je ne comprenais absolument pas ce qui se passait, ni où j'étais. Du coup, je suis emmené par cette famille dans leur maison, dans le Limousin, à Guéret, sans plus de formalité. Ces gens, c'est des catholiques un peu intégristes. C'est un monsieur qui est assistante sociale, qui ne travaille pas à temps complet, mais qui est assistante sociale et qui travaille dans la protection de l'enfance. Donc qui s'occupe des placements, des enquêtes sociales et des placements des enfants du département. Et sa femme, c'est une femme qui a commencé une carrière de directrice d'hôpital dans sa jeunesse et qui a décidé d'arrêter de travailler et de rester femme au foyer. Donc ils ont 3/4 d'un salaire pour faire vivre toute cette famille. Ces personnes avaient déjà adopté 2 grands-enfants coréens et ils en avaient 4 enfants biologiques. Et je suis arrivé avec mes deux sœurs, la famille est passée de 6 à 9 à notre arrivée. Alors moi quand je suis arrivé, je parlais en amharique avec mes deux sœurs, qui est la langue éthiopienne. Les gens qui nous ont adoptés ne souhaitaient pas qu'on parle une autre langue, qu'ils ne puissent pas comprendre. Et donc ils nous interdisaient plus ou moins de parler cette langue. Donc je me suis mis tout de suite au français. Le quotidien, c'était l'école, et puis pas grand-chose d'autre, en fait. J'ai pas de grands souvenirs de cette enfance. On vivait avec le minimum. Cette mère de famille faisait ses comptes vraiment au centime près. Il n'y avait pas du tout de loisirs. Il fallait avoir des cadeaux de préférence fait main ou des choses gratuites. L'anniversaire, ce jour où normalement on aime bien être un peu la star de la journée. Nous, on n'avait pas trop droit à ça. Ça se faisait pas vraiment, quoi. On a tout de suite eu une éducation un peu sévère, avec des claques, des fessées. des traitements un peu dégradants, un peu humiliants et puis violents. Moi, je me rappelle qu'il me dégoûtait un petit peu. Lui, il a une grosse barbe qui me révulsait un peu. Et je trouvais qu'il se sentait mauvais. J'ai trouvé moche et effrayant, en fait. Et donc ça, c'est l'enfance. Quand on arrive à l'adolescence, ça devient vraiment plus que de la violence. Tous les jours, des cris, des coups. C'était insupportable. Ma première sœur qui est partie, c'était suite à la première fois où elle a rendu un coup à cette mère de famille. J'étais dans la pièce, en fait. Je me rappelle plus du prétexte, mais je me rappelle qu'elle était assise sur une chaise, que cette mère adoptive était derrière elle, en train de la harceler de questions et comme une furie, et qu'elle s'est mise tout à coup à lui mettre des grands coups sur la tête. Et ma sœur s'est levée de sa chaise, elle l'a poussée contre le mur, et elle est partie. Et donc je pense que là, ça a été le prétexte pour dire que ma sœur était quelqu'un d'extrêmement violent, qu'elle c'était un danger et tout, et qu'il fallait la placer en urgence. C'est vraiment la seule fois de toute sa vie où elle a riposté, et c'était juste de la défense, en fait. Ensuite, ma deuxième sœur, quelques mois après, elle est partie. Et quelques années plus tard, ils m'ont mis aussi dehors parce qu'ils m'ont installé dans un tout petit studio à l'autre bout de la France. Et évidemment, ça s'est mal passé. J'avais 17 ans, mais j'étais un gamin. J'étais tout seul et j'avais pas d'argent. Et ça peut paraître bizarre parce qu'ils m'ont adopté, ils ont fait toutes ces démarches-là. Il n'y a jamais eu entre nous de signes d'affection. J'ai pas le sentiment d'avoir été même désiré, en fait. Là je dis ces gens-là, mais je les appelle pas mes parents, en fait, pas du tout. Il n'y a rien en commun entre des parents et ces personnes-là pour moi. Il n'y a absolument rien de positif qui nous relie. Je ne comprends pas que les personnes qui m'ont adopté en France n'ont jamais mis le pied dans mon pays d'origine. Ils ne sont jamais allés en Éthiopie, donc ils connaissent à peu près rien de ce pays. Et je me demande comment c'est produit, comment c'est faite l'enquête sociale. Je ne sais pas comment ils ont pu passer à travers tout ça. Je pense qu'on n'a pas trop mis le nez dans leur vie et qu'on les a laissés. C'est bon, on les connaît, tout est parfait. Un des juges qui a signé mon jugement d'adoption est devenu par la suite mon parrain. Donc c'est un petit peu comme s'ils avaient fait leur petite tambouille, comme ça, des petits arrangements, et que personne n'était vraiment venu voir leur capacité réelle de m'assumer, en fait. Je veux même plus porter leur nom. À chaque fois que je dois décliner mon identité, que je dois signer un papier ou que je dois donner mon nom de famille, ça me fait une boule au ventre et j'ai hâte de passer cette étape d'une manière ou d'une autre où j'arriverai à me débarrasser même de leur nom de famille. J'estime pas logique de le porter, en fait. Donc j'ai déjà pensé à reprendre mon nom et mon prénom d'origine. Ou peut-être que si je me marie bientôt, on en parle avec ma copine. Je serais très très heureux de prendre son nom à elle et d'abandonner vraiment ce nom de famille français qu'on m'a donné. Récemment, là, depuis cette dernière année, je suis rentré en contact avec pas mal d'autres personnes qui sont arrivées en France par la même association que moi, qui s'appelle Les Enfants de Reine de Miséricorde, fondée par deux personnes, par un couple de cathos intégristes en Normandie. Et en fait, quand je suis arrivé, ils m'ont changé mon prénom, mon nom de famille, même ma date de naissance, parce que ma date de naissance était connue, en fait. Et donc, ils ont décidé de tout changer. Ils ont changé toute mon identité, en fait. Comme si j'avais pas une histoire particulière, ou comme si j'étais né là depuis toujours, alors que non. Je suis arrivé pas en tant que page blanche, j'avais déjà une histoire qui a été comme un petit peu éradiqué, en fait. Je suis né normalement, je suis vraiment né en 92. Par contre, ils m'ont mis une date, c'est une fête religieuse, c'est le 25 mars. Et en fait, je me rends compte en rencontrant d'autres adoptés qu'on est 10 ou 15 à avoir la même date. Bah moi, en fait, cette association, ce monsieur, notamment, dont je connaissais le prénom et le nom, dont on m'avait parlé, dont des gens qui m'ont adopté m'avaient parlé, me parlaient de lui comme quelqu'un de très très bien, comme une personne très généreuse et qui avait beaucoup beaucoup aidé les enfants d'Éthiopie. Et en fait, j'avais entendu tellement de discours positifs sur lui que quand j'ai pu le recontacter récemment pour avoir des réponses sur comment s'était déroulée mon adoption et des questions très concrètes sur mon arrivée, j'ai été vraiment choqué du mépris apparent qu'il avait pour moi et pour tous les autres adoptés. Dans nos échanges, il était dans une espèce de toute puissance et de supériorité. Et il estimait connaître beaucoup mieux que nous l'Éthiopie. Il m'a beaucoup dit que c'était impossible de retrouver sa famille biologique. Et en fait, il disait ça absolument à tout le monde. Alors qu'en fait, pour la plupart, c'était tout à fait faisable. Et moi, je suis retourné deux fois en Éthiopie. On a une demi-sœur qui est encore là-bas. En fait, c'est elle qui nous avait retrouvés auparavant par les réseaux sociaux, en fait. Lors de ces deux voyages, j'ai rencontré la première fois ma famille biologique du côté paternel. Je suis retourné donc à Addis Abeba, là où je suis né, où énormément de gens nous connaissent, se rappellent de nous. Et ensuite, quand j'y suis retourné cette année, j'ai retrouvé toute ma famille maternelle, et dont mon grand-père maternel, qui est encore en vie, qui est très vieux, et qui m'a raconté comment il était venu devant l'orphelinat pour nous prendre chez lui, pour nous récupérer, quoi. Et comment on lui avait même interdit de nous voir. Enfin, ça ressemble un peu à un enlèvement, quoi. Là, lors de ce dernier voyage, j'ai aussi rencontré mes oncles et tantes, les deux sœurs de ma mère et le frère de ma mère, et tous mes cousins et toutes mes cousines, et en fait, toute ma famille, je les ai tous retrouvés, en fait. Et voilà, quand on arrive chez des gens qui nous attendent depuis 20 ans ou qui ont des photos de nous dans leur placard, qui nous redonnent des morceaux de notre enfance, quoi, qui nous remontent des photos de nos parents, des photos de nos bébés, qui nous expliquent tout de leur point de vue, mais eux, ils étaient là et ils nous racontent tout ça. On se demande comment on a pu être dépossédés d'une telle partie de notre vie. Et quand on récupère tout ça d'un coup, c'est beaucoup d'émotions, et j'essaie maintenant de faire cohabiter ces deux identités. La France, j'ai grandi, mais je peux pas faire une croix sur toute une moitié de mon identité, parce que je pense que ça rend un peu fou.
Je m'appelle Julie Foulon, j'ai actuellement 24 ans et je suis apprentie comédienne. Je suis née en Éthiopie, d'après la date de naissance qu'on m'a attribuée, c'est le 25 mars 1997. Et ma petite sœur et moi, nous avons été adoptées en 2003, août 2003. Du coup, j'avais 6 ans, ma petite sœur 4 ans. Du coup, en Éthiopie, on vivait dans une famille plutôt modeste, mais je me rendais à l'école. On a toujours été tous premiers de classe parce que mon père, il était très sévère avec nous, mon père biologique. Et notre mère, elle est toujours un peu en retrait, mais aimante, adorable. Et j'ai souvenir d'une enfance qui était plutôt très agréable pour ma part en Éthiopie jusqu'à la mort de notre père biologique. Décédé d'un accident de voiture. Tout s'est passé très vite, vraiment. C'est après la mort de notre père, on déménage de notre grande maison pour aller dans une maison plus modeste. Adessé, qui est une ville d'Éthiopie dans le sud de Addis Abeba. Et en fait, ma mère biologique a demandé de l'aide en disant « j'aimerais bien qu'on m'aide pour garder mes deux petites ». Parce que du coup, les autres étaient plus grands. Donc il y en avait une qui était déjà au Yémen, mariée, l'autre qui était à Addis Abeba. Enfin, chacun faisait ses études, donc chacun vivait bien. La nuit où j'ai dû dire au revoir, elle nous a réveillés en pleine nuit, je me souviens. Et là, à ce moment-là, tout le monde pleure. Ma mère, elle se met à genoux et elle me dit « Écoute, Sarah, tu vas partir en Amérique avec ta sœur. Je reviendrai vous chercher, ne t'inquiète pas, protège-la. » C'est tout ce qui s'est dit. On a marché, on a descendu la rue, on est arrivé devant ce bus en pleine nuit, lampadaire, le monsieur qui nous attend. Puis après, du coup, on a voyagé toute la nuit avec cet homme et il m'a dit « Écoute, tu vas devoir dire que ta mère est morte. de maladie, ton père d'un accident de voiture. Donc je me disais, bon, mon père c'est normal, mais je ne comprenais pas pourquoi on me demandait de dire que ma mère était morte. S'est retrouvée à Addis Abeba. Donc là, je comprends pas trop ce qui se passe. Et là, en fait, du coup, on nous emmène dans une salle, on nous chiffonne comme des assiettes, avec une éponge, savon, on fait même pas attention à nos yeux. On nous arrose, mais comme si on était des plantes. Et là, en fait, en gros, on nous rase tous la tête. Tous les enfants qui arrivaient à l'orphelinat, on leur rasait la tête. C'est comme si que le temps s'était figé. Je vomissais tous les jours. Et j'ai continué à vomir, même quand je suis arrivée en France. Et du coup, je vomissais tous les jours, donc je me faisais tirer les oreilles tout le temps. Mais je pense que c'était quelque chose d'assez religieux, parce que de toute façon, l'association par laquelle on s'est fait adopter, Enfants de Reine de Miséricorde, est une association très catholique. Il y avait des Blancs, de temps en temps, qui débarquaient dans l'orphelinat. Et là, d'un seul coup, quand les Blancs débarquaient, l'orphelinat s'animait. Musique, on était tous habillés en vêtements traditionnels, tout. Enfin, c'était ridicule. Et après, ils repartaient, et quand ils repartaient, dans les dortoirs, il y avait des enfants qui avaient disparu. Et voilà, et puis après, c'était à notre tour, un soir, bah, on nous habille de vêtements chauds. Et là, à ce moment-là, on part avec une petite équipe de personnes blanches qui sont venues et on voyage. J'ai pas grand souvenir du voyage. Donc c'est comme ça qu'on débarque comme des colis pour moi. Pour la plupart d'entre nous, on n'était absolument pas au courant que des parents nous attendaient à l'aéroport. Moi, en fait, on arrive à Paris-Charles de Gaulle, mais dans ma tête et par rapport à ce qu'on m'avait dit, j'étais en Amérique. Parce que je n'avais pas connaissance de Paris ni de la France. Donc voilà, et puis on a vu un couple qui s'est dirigé vers nous. Je me souviens, un blond et de l'autre côté, une femme avec des yeux verts. Et donc on les voyait, ils étaient émus. On n'a pas compris. Hein. Je savais que j'avais une mère biologique, donc avec ma mère adoptive, du coup Chantal, c'était dommage pour elle, mais elle avait pas de place dans mon cœur. Et un jour, elle me crie dessus et je lui dis, de toute façon, ma mère est vivante, t'es pas ma mère. Du coup, elle est sur le choc, ma mère adoptive. Puis sur les papiers d'adoption, il était dit que nos deux parents étaient décédés. Donc pour mes parents, il était pas, pour eux, ils avaient deux orphelines. Donc ils se disent, bah peut-être que des gens spécialistes pourront plus l'aider, parce que nous, on aimerait la croire. Mais sur les papiers, c'est pas ce qui est dit. Et voilà, et puis du coup, on m'emmène chez cette psychologue. Bon, bah, pour elle, c'était le symptôme du syndrome de l'enfant abandonné ou je sais pas quoi, ayant des poux, etc. Alors que j'étais à l'école, j'avais une maison, j'avais tout. Hein. Mon père faisait le poirier dans le jardin pour nous amuser. Enfin, je lui racontais des histoires où j'avais un singe, il a mangé les chaussures de tout le monde, donc il l'a vendu à un Américain. Mes sœurs, elles se lissaient les cheveux, elles s'habillaient, machin. Je lui racontais vraiment des histoires simples. Et c'est là où je pense que mes parents, ils ont tilté, ils ont dû se dire petit à petit, il y a trop de trucs qui ne vont pas. Et à l'école, j'étais première de classe, tout se passait bien, etc. Mais par contre, à la maison, je devenais de plus en plus... je voulais fuguer, je me souviens, c'était trop compliqué d'être dans un monde. C'est comme si vous étiez dans Matrix, que vous preniez une pilule, on se dit, ok, on prend cette pilule, on l'avale, mais de toute manière, peut-être qu'on oubliera l'ancien monde. Sauf que là, j'étais dans un autre monde et je n'ai pas oublié l'ancien monde. De comment faire ? Et du coup, avec mon père, on n'arrêtait pas d'aller embêter tout le temps Gilbert Bayon, qui est le directeur de l'association, en lui demandant, alors du coup, c'en est où pour la famille de Julie et de Marie ? Il demandait tout le temps à mon père. On veut éclaircir l'histoire de Julie et de Marie parce qu'elles font que de réclamer leur famille biologique. C'est pas possible. On reçoit un jour un courrier qui dit... Oui, lors de notre voyage en Éthiopie, on est tombé par hasard à un arrêt de bus sur la tante de Julie et de Marie et de leur grande sœur. La grande sœur, elle nous a avoué que cette femme était leur mère et pas leur tante, et qu'elle s'est faite passer pour morte. Donc pour mes parents, ils se disent, bon bah votre maman, elle a pas voulu vous abandonner, mais pour vous protéger, elle s'est faite passer pour morte, parce que sinon vous pouviez pas être adoptée. C'était le discours qui a été donné. Du coup, j'écris une lettre à ma mère biologique et je l'accable. Un an plus tard, on me répond. Oui, je vous battais parce que je rentrais tard du travail. Donc, ta sœur et toi, vous étiez bien battus par moi. Et voilà, et puis du coup, après, j'ai dit, j'en ai marre. Je dis à mes parents, je ne veux plus entendre parler d'Éthiopie. C'est trop de trucs, tout est vrai, faux, je ne sais pas. Et à partir de là, du coup, ce qui se passe, c'est que quelques mois plus tard, j'ai voulu partir. J'ai pris 37 cachets. Lorsque j'ai fait ma tentative de suicide, dans ma tête, j'étais trop en ébullition. Et du coup, mes parents, ils m'ont installée à Paris. Et c'est à partir de là, vraiment, pour moi, ça a été un déclic. Et je me suis reconnectée avec Sarah. Sarah, mon prénom initial, de petite fille, je l'avais laissée de côté à 6 ans. Je ne voulais plus m'occuper d'elle. Et là, ce qui était assez incroyable, c'est que j'ai réussi à voir dans un miroir Sarah et Julie. Une connexion qui a tout changé. Et je me suis calmée. Il y avait une armure qui était partie. Et moi, je m'étais dit, bon, tu vas passer à autre chose. Ça finit bien. Et ben non. Je me réveille un matin sur Messenger. Je reçois, bonjour mademoiselle, est-ce que vous connaissez une maman éthiopienne du nom de Askal Mekoden? C'est ma mère. Alors que je voulais faire un trait sur mon passé en me disant, écoute, t'as un bel avenir qui se présente à toi. Je préviens ma sœur en lui disant, écoute, il y a une femme qui dit qu'elle a retrouvé notre mère. Et ce qui s'est passé, c'est que quand cette femme, elle vit, elle, en France, à Nancy, et elle part voir sa sœur qui vit au pays, dans le même village que ma mère biologique. Ma mère biologique, elle est venue la voir, et elle lui a dit, écoute, je vais te raconter l'histoire de mes petites. Il faut que tu me retrouves mes petites. Du coup, on se donne rendez-vous sur WhatsApp. On voit une bonne femme habillée dans les coutumes éthiopiennes. Donc, ils ont plein de châles partout. Enfin, ils se couvrent. Un visage très fatigué. Elle nous regarde, elle nous redécouvre. On voit de l'amour dans ses yeux. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et de l'autre côté, on se rend compte que c'est notre mère parce que physiquement on lui ressemble. Et c'est la première fois du coup qu'on se retrouve à se dire, ah ouais, donc c'est ça d'avoir des vrais parents. Puis du coup, on n'a pas cherché à l'accabler parce que elle m'a expliqué, la dame à côté d'elle, qu'ils ont fait la fête au village parce qu'on nous avait retrouvés. Du coup, on s'est dit d'accord. Donc je pense qu'il y a des puzzles manquants, donc on va pas faire d'histoire maintenant. Du coup, des banalités. On s'arrête là-dessus et on lui dit, écoute, on espère que tu vas bien. Elle nous dit, j'espère que mes yeux un jour vous reverront. Enfin, elle commence à nous faire un discours que Dieu vous a protégé. J'ai tous les jours prié, il n'y a pas un jour que j'ai pas prié pour vous. Donc ça a été beaucoup pour nous. C'est violent. Elle a dit, je suis partie auprès du gouvernement du Kébélé, le gouvernement local, demander de l'aide. Et ils m'ont dit, on va prendre tes enfants, jusqu'à 18 ans, on va s'occuper d'eux, tu vas pouvoir avoir des nouvelles, tu vas pouvoir leur écrire, échanger avec eux. Et à 18 ans, ils te reviennent. Et elle a dit, moi j'ai attendu toute ma vie que vous ayez 18 ans. Elle dit que non, elle s'est jamais faite passer pour morte. Et là, ça a été le choc pour moi. Je me suis dit, comment ça, vous vous avez fait espérer une femme innocente? Vous l'avez laissé croire tout ça? Pourquoi? Enfin, vraiment là, ça a été de la colère. Quand on est arrivé en France en 2004, l'association a demandé à mes parents adoptifs de parrainer mon frère biologique. Et du coup, ils ont envoyé de l'argent tous les mois. Du coup, par la suite, je repose des questions. Je lui dis, écoute, est-ce que notre frère Demus, il reçoit l'argent qu'on lui a envoyé tous les mois? Elle me dit, non, on n'a jamais reçu d'argent. Et comment ça? Et je lui dis, mais pourquoi tu nous envoyais des bulletins scolaires? Elle me fait, parce que le monsieur blanc qui venait me voir me demandait les bulletins scolaires et en échange, j'avais des nouvelles de mes filles. Et le monsieur blanc dont elle parle, je suis aujourd'hui persuadée que c'est Gilbert Bayon. Et je lui dis, est-ce que face à ce monsieur blanc qui venait te rencontrer en Éthiopie, est-ce que tu te présentais comme étant notre tante ou notre mère? Elle fait, votre mère. Lui qui était au courant. C'était notre mère, cette femme. Pourquoi la faire passer pour tante? Et après, je lui dis, est-ce que t'as écrit ces lettres? En disant, elle me dit, moi, j'ai jamais écrit aucune lettre. J'ai demandé à écrire, ils m'ont interdit. Donc, qui a écrit ces lettres? Et c'était de déception, de choc, de tristesse. Et j'avais tellement mal au cœur pour cette femme qui est ma mère biologique, lui avoir fait subir tout ça. Mais c'est inhumain. Je me dis, avec cet argent, elle aurait pu avoir une vie plus décente. Et mon frère aussi aurait pu poursuivre ses études et peut-être réussir ses rêves. C'est là où je me suis dit, est-ce que vous vous rendez compte qu'en voulant soi-disant sauver des enfants que vous faites passer pour orphelins, vous détruisez des foyers? Pourquoi ils leur disent pas tout simplement oui, effectivement, Julie et Marie ont une mère biologique? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est illégal, et de deux, que leur business allait couler. Vous avez détruit la vie de ma mère biologique, qui ne s'est pas remariée, qui n'a rien fait après, qui a fait que de nous rechercher. Vous m'avez détruite, moi, et mes parents adoptifs. Ils ont fait confiance au gouvernement français, parce que les associations, les organismes d'adoption autorisés, ils sont agréés par l'État. Mais vous vivez dans quelle planète? Moi, mes parents, ils ont toujours été... vous êtes nos filles, on vous aime, et s'il faut aider votre frère, on va le faire. Mais il n'y a jamais eu... comme il peut y avoir ce truc-là de l'Occident sauve les Noirs en Éthiopie, enfin, ou ailleurs. Mes parents, non, ils n'ont pas eu ce truc-là, par contre. Sans moi, c'était rien. Et ça, c'est des choses affreuses que moi, en tout cas, je n'ai pas vécues avec mes parents adoptifs.
C'était Les enfants enlevés d'Éthiopie, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Yael Mandelbaum avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en 2021. On lira sur cette question une longue enquête en 3 épisodes, publiée alors par le magazine Cosette et signée Anna Kutchak, Alison Terrien et Christelle Gérant. Sachez également que Julie a publié un livre sur son histoire, Sarah et Tsega, aux éditions Baudelaire, et que c'est Valentin Rémy, notre attaché de production, et Nour Mohamedi, notre stagiaire. Confusion, oppression in motion.